Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de Sud Radio. On est ensemble pour une heure pour vivre les meilleurs moments de cette semaine avec Berkoff dans quelques instants, Berkoff dans tous ses états, le Loft Music également. Et puis on va commencer tout de suite avec Les Vraies Voix. Vous retrouvez Les Vraies Voix tous les soirs de 17h à 20h. Et cette semaine, on a eu le verdict du procès des écoutes de Nicolas Sarkozy. Et justement, on en débat tout de suite avec Les Vraies Voix.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Bonsoir Paul Bismuth.
Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance.
Bonjour Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison dont un enferme dans l'affaire dite des écoutes.
Et donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison.
Mais vous fumez monsieur.
L'ancien chef de l'État était reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris.
Quelle indignité.
L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy Thierry Herzog ont également écopé de la même peine.
Je comprends qu'il soit tourneboussolé.
Je vais t'en donner une adresse, et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Bravo à Jamel pour ce best-of de Nicolas Sarkozy. C'était toujours du très haut niveau, comme toujours avec Jamel, que qu'on applaudit encore une fois à la réalisation.
Bravo, Jamel,
Nicolas Sarkozy
magnifique.
A été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence et condamné à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des écoutes. Cyprien Pelligeril, c'est un choc pour l'ancien président.
Oui, Philippe, Nicolas Sarkozy est tout simplement devenu le premier ancien président condamné à de la prison ferme. C'était déjà arrivé pour Jacques Chirac, mais ce n'était pas de la prison ferme. Donc Nicolas Sarkozy et le premier de la 5ème République. Vous l'avez dit, 3 ans en tout, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Néanmoins, et ce n'est pas un détail, son avocate a annoncé tout à l'heure qu'il faisait appel de cette condamnation. Il est donc toujours présumé innocent, il faut le rappeler. Cette affaire des écoutes, qu'est-ce que c'est en résumé? Eh bien, en 2013, les juges mettent sous écoute Nicolas Sarkozy pour un supposé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Ils découvrent qu'il discute avec son avocat, Maître Herzog, et il se serait dit prêt à donner un coup de pouce à Gilbert Azibert, un magistrat, pour qu'il obtienne un poste convoité à Monaco. En contrepartie, Azibert donne des informations sur une autre procédure en cours. Et puis, finalement, ce possible pacte de corruption est avorté. Et c'est donc sur cette affaire que la justice a eu à se prononcer, et donc qu'elle se prononcera à nouveau. Avant d'ouvrir le débat, je voulais vous lire quelques réactions. Celle de Carla Bruni sur Instagram, l'épouse de Nicolas Sarkozy. Elle a écrit « Quel acharnement insensé, le combat continue, la vérité fera jour, hashtag injustice. »
C'est mignon.
Elle dit mon amour à un moment.
Elle dit mon amour, je l'ai coupé parce que j'avais du mal à le dire.
Non, il faut dire mon amour. Non, c'est important de le dire. Elle dit mon amour.
Parlons vrai.
Une autre réaction de Christian Jacob, cette fois-ci. Christian Jacob, c'est le patron du parti Les Républicains. Il a tweeté tout à l'heure, je cite, « La sévérité de la peine retenue est absolument disproportionnée et révélatrice de l'acharnement judiciaire d'une institution déjà très contestée. Toute la lumière devra être faite, sur les méthodes et l'indépendance du parquet national financier. »
Et merci beaucoup Cyprien Pelligeril. Et pour le moment, vous êtes 57% à penser que Nicolas Sarkozy est victime d'un jugement politique. Avec nous, Régis de Castelnau, avocat, auteur du livre « Une justice politique, des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement ». C'est publié chez L'Artilleur. Ça vient de sortir et ça fait 600 pages. Régis de Castelnau, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Diriez-vous que la justice a eu la main lourde pour Nicolas Sarkozy?
Je ne sais pas si on peut dire que la justice a eu la main lourde sur Nicolas Sarkozy. Je pense que cette décision est une décision à caractère politique. Elle ne pouvait pas être autre chose d'ailleurs. Effectivement, sur les 600 pages que vous avez citées, pas tout à fait 600, j'ai essayé de décrire un processus, j'ai essayé de décrire quelque chose qui s'est produit en France depuis une trentaine d'années, qui a été l'émancipation de la justice vis-à-vis de l'appareil judiciaire, de la magistrature, vis-à-vis du pouvoir politique, qui s'est faite effectivement dans la durée et qui s'est faite aussi et surtout par l'affrontement avec le champ politique. Le problème, c'est que cette émancipation, ça c'est mon analyse, cette émancipation s'est faite pour conquérir une indépendance qui n'a pas été l'outil de l'impartialité, mais l'outil de la partialité. et une partialité à caractère politique, ce que j'ai pu constater dans ce qui s'est produit depuis un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, sur un dossier que j'ai la prétention de bien connaître, très bien connaître même, et pas seulement celui-là d'ailleurs concernant Nicolas Sarkozy, la justice n'avait pas les éléments, ça c'est mon analyse, qui permettait, et c'était l'analyse de ses conseils, mais ça a été l'analyse de toute la presse qui a eu accès au dossier pendant les audiences, hein, il n'y avait pas d'éléments pour aboutir à la décision qu'on connaît. Donc je pense que le choix, il était simple, hein, il était soit, effectivement, le tribunal condamne, ce qui veut dire, toujours d'après moi, qu'on a, de la part de l'appareil judiciaire, la volonté de ne pas rompre avec ces dérives dont on avait eu un exemple quand même assez particulier avec la disqualification judiciaire pendant la campagne présidentielle de Fillon, hein, et ou bien si ça avait été une décision de relax, elle aurait eu aussi un caractère politique qui était celui de l'affirmation du refus, hein, de poursuivre dans cette voie-là. J'insiste toujours, c'est mon analyse. Bon, elle repose sur un travail, elle repose sur une observation, hein, et je pense que malheureusement aujourd'hui, on est confronté à une situation politique particulière.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Aga.
Les vraies voix que vous retrouvez du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Sud Radio et puis évidemment en podcast sur sudradio.fr. On revient dans quelques instants avec Berkov dans tous ses états et puis avec le grand matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. C'est dans quelques instants.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Aga.
Vous êtes les bienvenus, on est en plein cœur du meilleur de Sud Radio, on revient ensemble les meilleurs moments de la semaine. André Berkoff arrive dans quelques instants, mais là d'abord c'est le grand matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus qui recevaient cette semaine Didier Jean-François Audebert qui est journaliste, réalisateur et directeur de l'agence de communication Let Me See pour le livre QU, le quotient d'utilité.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
On connaissait le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, et ben on va vous parler du quotient d'utilité. Devenons chaque jour plus utiles, et on en parle ce matin avec Didier Jean-François Audebert. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci journaliste, réalisateur, directeur de l'agence de communication Let Me See.
Bon, d'où ça vous est venu ça, ce quotient d'utilité? C'est
un
vrai
constat.
Que quand on y réfléchit, on se dit bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est utile? Dans ce que je fais, à la maison, au travail, même de sa vie, quoi, bien sûr, quoi. C'est ça, c'est une réflexion philosophique. Vous êtes dit, bon, allez, je suis arrivé, allez, à une bonne quarantaine bien sentie, peut-être à peu près, hein, c'est ça. Je porte un regard sur ma vie pour savoir ce que je vais faire aussi demain en même temps.
C'est un peu ça. Et puis, c'est vrai que c'est une expression qui est utilisée partout, à tous les moments de la vie, de plus en plus. On a besoin de se rendre utile, on veut se rendre utile, être utile, et puis alors ça reste dans l'abstrait, mais là j'ai décidé de donner du concret à l'abstrait avec ce quotient d'utilité, cette capacité de se rendre utile avec un outil pour guider les gens vers l'utilité.
Oui, c'est ça, il y a des questionnaires et à la fin il y a tout
un tas de...
Oui, il y a des QCM quoi, pour savoir si on était utile. Alors ça commence par où d'ailleurs? Peut-être en famille quoi d'abord?
Alors il y a des sujets, hein,
ouais,
il y a divers sujets.
Hein.
Alors je décline. Déjà, je fais un constat de l'utilité, d'où elle vient-elle. Je me suis aperçu en enquêtant, parce que je suis journaliste avant tout, que cette utilité elle a été dépeinte à travers le temps par tous les grands philosophes, dans tous les domaines, y compris le domaine économique. Mmh. Et puis, ensuite, je fais un constat de l'utilité dans nos vies, par rapport à ce livre, et puis je décline effectivement l'utilité dans tous les domaines de notre vie, avec la manière de l'optimiser par domaine. Alors vous parliez en famille,
au bureau,
au travail, dans les médias,
même dans la
santé,
finance.
Dans la finance, avec on parle beaucoup de l'ISR, l'investissement socialement responsable, etc. Donc dans tous les domaines de la vie, on a moyen de se rendre utile pour améliorer les choses. Et on ne le fait pas parce qu'on est un peu poil dans la main, quelque part.
Ah, vous pensez que c'est ça ou c'est parce qu'on veut avancer coûte que coûte, si je puis dire, pour soit gagner de l'argent, pour entretenir son foyer familial ou réussir à se protéger en quelque sorte, quoi. Non, plus que de l'utilité, non?
Bah, On le fait, l'utilité, c'est avant tout pour nous-mêmes. Attention, se rendre utile, faire de bonnes actions, être utile dans tous les domaines de la vie, ça sert aussi avant tout notre propre personne.
Ouais.
Avant de servir les autres et de servir la bonne marge de la planète. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si on n'est pas utile, on va vers le gouffre. On voit ce qui se passe de plus en plus et il nous faut absolument optimiser cette utilité latente qui dort en nous.
Eh bien, c'est pour du bien-être. Alors, forcément, j'imagine que la crise sanitaire a accéléré les choses pour beaucoup d'entre nous. On dit qu'un Français sur cinq ne perçoit pas le sens de son travail et aimerait se sentir justement utile dans son travail. Et ce qui pousse aujourd'hui peut-être les gens à une reconversion?
Oui, tout à fait. En entreprise, les étudiants, alors avant le Covid, mais ils étaient de plus en plus portés vers le choix de société. Maintenant, ils ont plus trop le choix à l'heure actuelle parce qu'il faut déjà qu'ils trouvent un travail. Mm-hmm. Mais vers le choix de société, d'entreprise qui puisse être utile à leur parcours, à leur bien-être, à la bonne marche du monde. Et c'est un des aspects, effectivement, de l'utilité déclinée par rapport aux étudiants. Mais dans le travail, par rapport aux gens qui travaillent dans une société, ils cherchent aussi l'utilité quand ils rentrent chez eux, d'avoir été l'impression d'avoir travaillé pour une société utile et d'avoir eu un travail utile.
Mais dans notre quotidien, travailler pour l'intérêt général, est-ce qu'on arrive à donner une mesure de dire, ben voilà, 10% de votre temps, il faudrait que ce soit au service de l'intérêt général ou 20%. Est-ce que ça se calcule comme ça?
Alors, c'est pas tellement seulement l'intérêt général. Mmh. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'utilité c'est avant tout pour soi-même. Mmh. Ça peut être de...
Oui, mais se sentir bien d'avoir aidé l'autre, peut-être.
Oui, tout à fait, d'avoir aidé l'autre, mais de s'être aidé soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le temps qu'on doit passer dans la journée, il n'est pas établi. Ce sont de petits gestes par jour, ou de grandes actions par jour. Il n'y a pas de temporalité au nombre de gestes utiles. Mais à la fin d'une semaine, si on a été utile à des gens, si on a été utile à soi-même, si on a eu l'impression d'aller dans une bonne direction, celle du bon sens, là, on a l'impression d'avoir optimisé son utilité.
Mais c'est quoi être utile à soi-même? C'est se remettre en question?
Alors déjà, c'est tout faire pour être dans de bonnes conditions, pour pouvoir transmettre un sentiment d'utilité au reste de la planète et pour pouvoir créer une sorte de chaîne d'utilité pour que ça aille mieux autour de nous.
Oui.
Hein, plus on est utile et plus on transmet cette utilité aux autres pour qu'ils le deviennent.
Oui. Il y a un aspect un peu écolo dans ce que vous traitez beaucoup, quoi, quand même. Éthique et écolo, quoi.
Alors,
je le vois sur l'ensemble des chapitres que vous avez détaillés, l'écologie, après, bon, bah, il y a venir en aide aux plus démunis, etc., recyclage, tout ça fait partie des choses qui vont être utiles, quoi. C'est ce que vous dites, hein. Adresse idée pour s'engager et se rendre utile. Là, vous avez tout un chapitre autour de ça. Parce que on l'oublie bien souvent.
Alors écolo, vous dites ça parce que la couverture est un peu verte.
Oui, alors elle est un peu verte en même temps. Non, mais c'est vrai.
C'est aussi écolo parce qu'on peut pas parler de l'utilité sans parler de l'utilité dans l'environnement, surtout en ce moment avec le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Mais c'est en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre, au jour d'aujourd'hui, sans apporter une contrepartie à sa présence dans la société et sur Terre. Et si jamais on ne l'apporte pas nous-mêmes de notre plein gré, on va bientôt nous demander de l'apporter un peu peut-être de force. Mmh. On parle de plus en plus de la sélection des utiles et des inutiles. Mmh. Il serait temps de s'apercevoir que, par nos actions, il faut faire avancer la planète et non pas regarder les trains qui passent en détournant la tête.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Le Grand Matin Sud Radio que vous retrouvez du lundi au vendredi de 5h à 10h sur Sud Radio et toutes les chroniques sont en podcast sur sudradio.fr. On continue avec un peu plus de légèreté, le Loft Music qui a lieu tous les soirs de 20h à 21h et cette semaine on célébrait les 30 ans de la disparition de Gainsbourg. Et bien Yvan Cujous a invité Thomas Dutronc et Yves Bigot pour en parler.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Nous accueillons à l'instant Yves Bigot. Merci d'être là, Yves.
Bonsoir.
C'est très sympa d'être passé nous voir en ce jour de célébration des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. La France est touchée de la même manière, j'allais dire, par la mémoire de Gainsbourg, ce qui en fait quand même un artiste très singulier. Tous les artistes français qui ont une œuvre comparable n'ont pas la même pérennité, la même durée dans le temps. Gainsbourg, il est resté intact dans la mémoire des Français. Comment on explique ça, Yves Bigot ?
Parce qu'il était moderne.
Ouais.
et qui elle a toujours voulu être à la pointe de ce qui se passait dans le monde. C'est pour ça qu'il était fasciné par l'Angleterre, qu'il était fasciné ensuite par l'Amérique, qu'il voulait toujours enregistrer avec les meilleurs musiciens possibles. Et parce que son talent, en même temps, hein, il n'est pas le seul artiste français à avoir du talent, mais il y en a peu qui en ont autant que lui. Et justement,
c'est clair.
Un talent très particulier. Et puis alors, pour ce qui est de l'affection, hein, au-delà de la qualité de tout ce qu'il faisait, je pense que s'il touche autant les Français et aussi longtemps, y compris ceux qui ne l'ont pas connu, qui... pour certains n'étaient pas nés hein, quand il est disparu il y a 30 ans, c'est qu'on ressent dans son personnage, dans ce qu'il écrit, évidemment dans les images, hein, quand on le voit, c'est on perçoit sa timidité, sa fragilité, cette espèce de souffrance intérieure, évidemment qu'il... sublimé par de la provocation, par de la transgression, mais je pense que voilà, tout le monde arrive à percevoir justement quel gars c'était et quel gars sympathique à fréquenter comme ça dans la vie et pas dans la vie amicale, hein, dans la vie professionnelle, hein, de moi en l'occurrence de journaliste à artiste, c'était quelqu'un d'extrêmement humble, hâbleur aussi, hein. Mais quand il était à Blur en expliquant qu'il était le meilleur, que etc., on voyait bien, c'est un peu comme les rappeurs, on voyait bien qu'il disait ça à lui-même pour essayer de s'en persuader, parce que justement, il n'en était pas si certain que ça. Après, un de ses génies, au-delà de vraiment sa qualité de versificateur, hein, qui est absolument inouïe, je veux dire techniquement, hein, c'est un technicien stupéfiant des vers, mais... c'est aussi, il a su extemporiser toute la matière littéraire, poétique et musicale des deux siècles qui l'ont précédé, mais les mettre dans un contexte nouveau, différent et moderne. Ça en fait, d'une certaine façon, le seul équivalent dans le monde du rock que je peux voir, c'est David Bowie, qui pratiquait un peu de la même manière. Alors, auquel on pourrait, comme parfois à Gainsbourg, reprocher que son talent n'est pas totalement original, mais qu'il recycle beaucoup les autres. Mais recycler les autres avec un génie pareil, c'est un talent équivalent de celui de ceux qu'il recycle.
Et c'est bien qu'on parle de ça, parce que le rap fait beaucoup ça, et c'est bien de le dire, de le souligner. Le rap va chercher des sons, va chercher des choses qui ont existé, qu'on remet au goût du jour. Et une des facettes du rap, c'est ceci qui favorise la transmission et la culture patrimoniale, j'allais dire. On touche aussi...
C'est autre chose quand même. Ça relève plus du côté DJ que du côté compositeur-mélodiste. C'est quand même différent.
Ouais.
C'est pas pour rabaisser un, mais voilà, c'est quand même... plus compliqué d'être mélodiste.
Ouais, oui, en même temps, quand il va chercher Chopin, il cite Chopin, il reprend Chopin. Dans Lemon Incest, par exemple, c'est Chopin intact.
Il est allé chercher des mélodies, effectivement, dans toute la culture classique européenne, mais il est aussi allé chercher ça en Afrique. Il est allé. Moi, je me souviens qu'il était arrivé un jour dans une émission que je présentais sur une radio dite périphérique à l'époque.
Laquelle ?
Europe 1.
Ah, ça me dit un truc.
c'est une radio qui existait.
Qui existe,
numéro 1.
Qui n'existe plus alors.
Elle existe toujours, mais elle était numéro 1 quand j'y étais.
D'accord. Ah, ça c'est bien vu.
Je ne sais pas s'il y a de rapport. Mais en tous les cas, je me souviens qu'il était venu faire une émission, qui était un de ses fantasmes. Il voulait faire une émission qui serait sa version à lui du Chien des Baskerville. C'était un truc qu'il voulait, un peu d'épouvante, la nuit, etc. Mais il avait amené la musique qui allait avec, et puis il déclamait des textes, hein, du Lautréamont, du Baudelaire, hein, etc. Mais il avait amené de la musique, et puis donc il avait amené notamment ce formidable album de Babaté Olatunji, hein, percussionniste nigérian.
On en a parlé tout à l'heure, absolument.
Sur lequel il a pompé
son œuvre Gainsbourg Percussion.
Ouais. Voilà, exactement.
Et qui est sorti quand même en 1964.
Oui, bien sûr.
Il
faisait un clin d'œil. Il disait, tu vois, mon petit gars, c'est là-dessus que j'ai piqué tout un album entier.
Vieille canaille, c'est ça. C'est vraiment ça.
Non, mais donc, il le disait, il le revendiquait. Et voilà, et il faisait ça avec talent, parce que c'est vrai que New York USA ou Couleur Café, ben, ça ressemble pas à Jingo Loba, même si c'est fait sur avec les rythmiques de Jingo Loba.
Ouais, oui, 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 non mais c'est vrai, c'est clair. Mais en même temps, ça fait partie du personnage, cette espèce de provocation tout le temps, de cet entretien, parce qu'il a su quand même créer un personnage. Est-ce que Thomas Dutronc, Yves Bigot, est-ce qu'il l'a créé de manière consciente, ce personnage, en fait ? Est-ce qu'il y avait ce calcul, cette manière comme ça d'avoir peut-être un peu de recul du coup, parce que quand on a une marionnette, eh ben, on a de la distance avec soi. Est-ce que vous pensez qu'il y avait, que c'était une volonté, ça, ce personnage gainsbourgien ?
Sûrement un petit peu. Ouais, à la fois oui et non. Je sais pas, ouais. Yves répond.
Yves Bigot.
C'est marrant parce que aujourd'hui j'étais avec un chauffeur qu'on connaît depuis longtemps et qui a bien connu Serge à l'époque, qui a centaines d'années, qui a beaucoup transporté Serge quand il était tout gamin, tu vois, il commençait, donc il avait plein de souvenirs émus de Serge. Une fois, il se retrouve à passer chez lui, ce chauffeur avec Serge, sur la route de je sais plus où. Et en fait, il arrive, il disait, il avait pas beaucoup de sous, il me dit, d'ailleurs, il disait, j'en ai toujours pas, mais il avait deux fils de fer pour fermer son portail, Joe. Et Serge a vu ça, il lui a fait un chèque, et il a dit, mais attends, tu t'es trompé, là, t'as mis un zéro de trop au final, mais la prochaine fois, tu mets un portail. Et, enfin, il était d'une générosité, il distribuait quand même les Pascal. Et ça, on le dit pas trop, enfin, on l'entend pas trop, mais moi, je l'ai vu combien de fois, il prenait un taxi, il donnait 500 balles de pourboire, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de 500 euros aujourd'hui, quoi. Il prend un taxi, il y avait une course à 15 euros, il laissait, je sais pas, 200 euros, quoi, l'équivalent. Dès qu'il croisait un type dans le, je sais pas, j'ai entendu dire les éboueurs aussi, enfin, il allait tout le temps chercher des mallettes de billets pour les distribuer, comme ça, aux gens, c'est un détail, mais c'est de la générosité au-delà de se créer un personnage, quoi.
Ouais, je sais pas, Yves Bigot, le personnage Gainsbourg.
Moi, je pense que c'est la timidité.
Ouais.
Et donc de se créer un personnage qui, lui, n'est pas timide, et lui, n'a pas peur, et lui montre justement qu'il transgresse, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un... Je pense que Serge, il a surtout beaucoup souffert de ne pas être reconnu et devenir une star à l'âge où il aurait voulu l'être.
Plutôt.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Aga.
Le Loft Musique que vous retrouvez tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h sur Sud Radio et puis sur sudradio.fr pour réécouter toutes les émissions. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio et ça sera autour de Berkoff dans tous ses états, mais il y aura également Valérie Expert. Ne bougez pas.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Aga.
Bienvenue dans le meilleur de Sud Radio. On reprend dans quelques instants avec André Berkoff, mais d'abord un grand classique Sud Radio. Voici Toto, 14 albums studio, 4 albums live. Au total, c'est 40 millions d'exemplaires vendus de leurs titres depuis 1978. Voici Hold the Line, Toto sur Sud Radio.
Love isn't always on time.
Merci d'avoir fait le choix d'écouter Sud Radio et le meilleur de Sud Radio. On retrouve tous les meilleurs moments de cette semaine. Et on fait un petit détour entre midi et 14h. C'est André Bercoff qui vous accueille tous les jours. Et cette semaine, il invitait Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine. Et il venait parler de la démocratie confinée, l'éthique, quoi qu'il en coûte. C'est son livre. On l'écoute tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Et surtout, je suis très heureux de le recevoir, non pas seulement à cause de son livre, mais à cause, en raison du fait qu'on parle très peu d'éthique. C'est-à-dire, on parle de tout, hein, dans ce Covid, évidemment, qui nous occupe depuis plus d'un an. On parle des morts, on parle d'étalité, on parle de tests, on parle de vaccins, on parle de problèmes médicaux, les protocoles X ou Y, les labos, etc., etc. Mais là-dedans, quand même, c'est comment un pouvoir en fait avec ses sujets, comment on traite les sujets. Et je voudrais juste, professeur, que vous nous dites, peut-être vous redéfinissiez le mot éthique. Je crois que c'est important de commencer par ça.
D'abord, merci, Bercoff, de l'invitation. Et j'ai assisté, depuis quelques minutes, pas un cours d'éthique, mais une incarnation de ce qu'était une réflexion éthique. Face à un sujet, comment comprendre où se situe le sens, comment décrypter une situation et comment être dans l'analyse critique, c'est-à-dire dans la capacité face à une situation comme celle que vous avez évoquée pour une personnalité de la République, comme Jacques Chaban-Delmas, un résistant, donc quelqu'un qui incarne l'exemplarité et la valeur. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit de la société, qu'on ait cette irrévérence, quels que soient, j'allais dire, les enjeux qu'on peut aussi comprendre. Et vous voyez, en matière d'éthique, d'abord, on n'est pas dans le jugement, c'est pas la morale. On n'est pas dans l'autorité, vous voyez, vous me présentez comme professeur, on n'est pas professeur d'éthique dans la vie de tous les jours. On est aussi démuni par rapport à une situation comme celle qu'on va évoquer. On est aussi fragile à titre personnel et en tant que membre d'une cité par rapport à un défi comme le Covid-19. Ce qui est important, c'est la faculté de discernement. Ce que vous faites, par exemple, dans votre émission, avec votre personnalité, avec votre histoire, chacun peut avoir une considération particulière sur un sujet donné. Il n'y a pas une vérité en soi. Mais ce qui est important dans une démocratie, c'est qu'on pose des questions, qu'on en parle, qu'on se contredise d'une manière respectueuse, non pas en termes comme ça d'affirmation péremptoire, comme vous l'avez dit, en termes de tyrannie des idées, mais en termes de recherche d'un compromis. Et vous voyez, on est dans une société qui est malheureuse aujourd'hui. Malheureuse parce qu'on a l'impression que la vie démocratique a été assujettie au Covid. D'ailleurs, qu'on a exploité cette notion de confinement jusqu'à réduire notre capacité d'intervenir sur nos vies, sur notre vie à titre privé, mais aussi sur la vie de la démocratie. Et quand moi j'ai rédigé finalement ce travail sur la démocratie confinée, c'est en tant qu'observateur. C'est-à-dire, je suis depuis le début une pandémie. Et j'avais travaillé sur le sida. J'étais plus jeune qu'aujourd'hui et on a vécu une pandémie avec d'autres types de réactions au niveau de la vie démocratique. Faut pas oublier que les militants des années sida qui n'avaient rien à voir avec la caricature de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui étaient des gens responsables, qui étaient des gens qui avaient besoin d'exister socialement et d'être reconnus, nous ont dit ce qu'était la démocratie en santé, pour prendre un exemple précis. Puis il y a eu le H1N1 avec ses préparations. Donc quand, il y a un peu plus d'un an, on s'est retrouvé face à l'éventualité, mais c'était pas une éventualité malheureusement, de ce qu'allait être le Covid-19, je me suis dit, en termes de valeur de la République, en termes aussi de valeur dans les arbitrages. Et je termine sur un point, vous me demandez une définition de l'éthique. Il n'y a pas une définition de l'éthique. Pour moi, il y a une manière d'assumer nos responsabilités, avec un esprit critique, c'est-à-dire avec une pensée, avec une capacité aussi d'accepter qu'on ne détient pas une vérité, qu'on est dans l'incertitude, qu'on est dans le doute, qu'on doit s'adapter. Mais ce qui me semble fondamental, c'est comment on prend une décision, c'est-à-dire quel type de critères on mobilise. Vous voyez, par exemple, demain, une personne pourra dire « je préfère prendre le risque ». Je suis dans un EHPAD, je préfère prendre le risque de me faire contaminer. J'ai quelques années devant moi et je préfère voir ma famille. Je préfère aller et venir. Voilà.
C'est un choix. C'est moins éthique, c'est responsabilité et risque, c'est ça.
Voilà. Et dans un deuxième temps, on dira à cette personne, oui, mais vous vivez dans un EHPAD, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis des autres personnes. Ouais. Et je pense que l'intelligence, c'est de poser les questions. Il n'y a pas toujours des réponses. Et en éthique, on dit, il y a des dilemmes. Chacun, dans notre vie quotidienne, on se dit, est-ce qu'on va faire ceci? Est-ce qu'on va faire cela? Et en matière d'éthique, on regarde deux choses. Quelles sont les conséquences d'une décision pour soi et pour les autres? On vit en société. Et vous voyez, c'est pas de la répression, c'est de l'intelligence. Et je dirais, par exemple, un enjeu éthique aujourd'hui, c'est face à une situation difficile, comment redonner de l'ouverture? Comment redonner de la pensée? Comment donner, comme vous le faites, de la culture? Comment donner, non pas de l'espoir un peu théorique, comment reconstruire une société? Comment être solidaire vis-à-vis des plus vulnérables? Comment être dans notre environnement quotidien en capacité d'aider l'autre? s'il est démuni, si demain on se trouve dans le confinement. Voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai pas de définition de l'éthique, mais j'ai une meilleure compréhension de ce qu'est la vie démocratique, comment on assume les uns et les autres nos responsabilités.
En fait, presque si j'avais à... Et en fait, l'éthique, c'est quand même une manière d'être civique, de prendre ses responsabilités, de mesurer les conséquences de ses responsabilités et d'être lucide dans la lucidité. Alors à cela, quand même, je vais pas jouer l'avocat du diable, mais des pouvoirs, ils diront oui, d'accord, très bien, tout ça, professeur Emmanuel Hirsch, mais qu'est-ce que, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et justement, on va parler quand même de la Covid-19. Écoutez, le moins que l'on puisse dire, mais là on a un an de recul, même plus d'un an de recul, enfin dans quelques jours ce sera le premier anniversaire du premier confinement. Donc on vous dit, oui mais écoutez, il faut prendre des décisions. Mais justement ces décisions-là, ce qui est très frappant, et vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, et très bien, c'est qu'il y a eu tout et le contraire. Rappelez-vous l'histoire des masques, rappelez-vous l'histoire des tests, rappelez-vous l'histoire où on disait, voilà, il va y avoir une modélisation avec 500 000 morts, enfin, annonçait-on, hein, c'était le Salomon tous les soirs, hein, le croque-mort, enfin je le dis, et puis toutes les décisions, après le masque devient important, puis le confinement qui s'arrête, qui recommence, on se dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, et cette espèce de qu'a introduit pour vous cette espèce de valse hésitation, c'est le moins que l'on puisse dire, par rapport aux gens, et vous le dites vous-même, il faut associer les gens. Vous parlez beaucoup et très bien de cela dans votre livre. Vous dites, attendez, les décisions sont prises, mais elles sont prises en dehors, c'est-à-dire, ce n'est pas, comme on dit en fait, et moi ça m'a frappé dans votre livre, c'est on dit toujours, le public aujourd'hui, les citoyens, se méfient des politiques, se méfient des médiatiques, se méfient même des médecins maintenant. Mais vous vous dites... Ce sont les pouvoirs, quelquefois, qui se méfient de la population.
Oui, c'est-à-dire, on parle de confiance et de défiance. Quand vous regardez tous les textes préparatoires à une pandémie, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de texte préparatoire. Il y a toute une culture au niveau de l'OMS et au niveau français aussi. Regardez, les auditeurs et auditrices pourront regarder, par exemple, le plan de préparation de 2012 à une vaccination, qui n'hiérarchise pas les priorités comme on l'a fait, pour parenthèse.
Oui.
Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a dit, effectivement, pendant quelques mois, on est face à une situation imprévue. C'est-à-dire, il faut qu'on s'organise, et oui. Il y avait une urgence.
Or, il y avait des plans, vous dites,
voilà,
tout ça existait.
Il y avait des plans, à un autre moment, je pourrais vous développer pourquoi on ne l'a pas pris, mais enfin, peu importe, il y avait des plans, c'est-à-dire, il y avait un certain nombre de repères pour mettre en œuvre, il y a des fiches techniques, il y a tout un ensemble de dispositifs qui avaient été très bien travaillés, notamment par Roselyne Bachelot et par Didier Houssin, dans les préparations du H1N1. Ça D'accord. nous a coûté beaucoup d'argent, le H1N1, mais au moins on avait cette intelligence. Et cette intelligence, et tous les textes internationaux disent, pour qu'il y ait des mesures, qui soient des mesures que la société comprenne, il faut l'associer. Il faut donc qu'il y ait de la communication, mais aussi qu'il y ait de la participation.
Le meilleur de Sud Radio, Micha Aga.
André Bercoff, c'est du lundi au vendredi, de midi à 14h, Bercoff dans tous ses états sur Sud Radio et également sur sudradio.fr. On continue et un petit peu plus tôt dans la journée, entre 10h et midi, c'est Valérie Expert qui vous accueille pour le 10h midi média, pour l'œil de l'expert et pour les débats. Et là justement, on va du côté des débats avec les coups de cœur et les coups de gueule des débatteurs de Valérie Expert.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Tour de table de ce qui a retenu votre attention, pardon. Patrick Vignal, on commence avec vous.
Écoutez, moi, oui, j'ai eu le temps de lire le livre de Jean Viard, La page blanche.
Oui.
Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un sociologue qui pose des vrais débats, qui ne clive pas. Et vraiment, je vous encourage à le lire parce que ça donne de l'espoir pour cette grande nation qu'est la France.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça dit ?
Ben, l'idée, c'est que voilà, il veut une France apaisée. On n'est pas sur des dogmes autoritaires. On prend en compte effectivement la santé des Français, la santé de la jeunesse. Vraiment, dans une période difficile, anxiogène, où moi je prends ma part, je trouve que c'est assez rafraîchissant.
D'accord. Donc Jean Viard, la page blanche. Kevin Bossuet, c'est un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule contre la haine, contre les journalistes et le populiste anti-journaliste. Samedi dernier, il y a un photojournaliste qui s'est fait agresser dans un quartier sensible de Reims. Ce photojournaliste circulait en voiture. Donc sur sa voiture, il y avait le nom de son journal, c'est l'Union. Dans sa voiture, il y avait tout son matériel. Donc il est fort à parier que s'il s'est fait agresser, c'est parce qu'il était journaliste. Et ce serait vrai qu'on remarque de plus en plus hein, des mauvais mots contre les journalistes, des agressions verbales contre les journalistes. Hein. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on dit qu'ils manipulent l'opinion, on dit qu'ils sont vendus aux hommes politiques, aux multinationales. Enfin, c'est évidemment complètement ridicule et complètement aberrant. Et moi, j'aimerais dire que ces journalistes occupent un rôle important dans notre démocratie. Ils sont là pour donner de l'information, pour révéler des affaires qui nous permettent d'avancer tous démocratiquement. Et le fait qu'on s'en prenne à ces derniers, moi, je trouve ça infâme. Surtout que dans des dictatures, on tue des journalistes. Hein, l'année dernière, en 2020, il y a eu 50 journalistes qui sont morts parce qu'ils étaient journalistes. Et il y a dans le monde entre 250 et 400 journalistes qui sont emprisonnés, notamment en Chine, en Égypte, etc. etc. Donc à un moment, bien sûr, il faut critiquer le travail des journalistes, c'est quelque chose qui est important, mais il faut le faire de manière intelligente, de manière pondérée, ne pas crier aux tous pourris, parce que ces journalistes occupent une place très importante dans notre démocratie.
Oui, je pense que c'est journalistes, médecins, tout ce qui représente
enseignants, policiers,
pompiers, ça rentre dans cette espèce de... Je sais pas, que vous voulez commenter, Patrick Vignal ?
Non, écoutez, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué en ce moment dans certains quartiers de France, mais c'est les journalistes, c'est la police,
oui, c'est ça.
C'est les médecins. Vous savez, je pense qu'on n'arrivera pas à régler ces problèmes qu'avec la sécurité, qu'avec la police. Moi, je plaide pour qu'il y ait dans ces territoires aussi des coordinateurs de territoire, des gens qui repèrent cette jeunesse très difficile, donc à la fois la répression pour ces voyous, mais à la fois préparer une société où on remet de l'éducation. Écoutez, hier à Montpellier, un comité de quartier se réunit et 10 jeunes encagoulés veulent les encercler pour les empêcher de sortir. Cela, il n'y a pas de cadeau, mais après, il faut construire une société de médiation, une société différente. Sinon, on ira au chaos.
Ouais. Aurélien Véron.
Eh ben, on constate là, le fameux archipel français avec des zones où les territoires sont tenus par un nouvel État qui sont des bandes, qui sont des dealers et qui s'approprient leur territoire et qui gèrent aujourd'hui les vacances des enfants avec l'argent de la drogue, qui gèrent la sécurité, qui a le droit de rentrer par entrée. Les pompiers se font caillasser. Pour les journalistes, je suis d'accord, c'est très inquiétant parce que un journaliste n'est pas neutre, mais il représente un pouvoir d'information et un pouvoir de dissection. Je serais corrigé par Kevin Brochet, mais ils sont dans une observation, une analyse qui est absolument nécessaire et indispensable dans une démocratie qui fonctionne. Ouais. Et menacer les journalistes, c'est menacer aussi ce pouvoir d'observateur qui n'est pas totalement neutre, mais qui quand même est absolument vital si on veut continuer à avoir une information mélangés, contradictoires, mais qui permettent de se faire une opinion.
Mmh. Bon, on a un auditeur qui nous dit, Cédric nous dit, Kevin, ridicule pour les journaleux, ils sont tous pourris. Bah oui, ils méritent de se faire taper dessus, c'est ça, Cédric ? Précisez votre pensée. Mmh. Les gens méritent de se faire taper dessus, qu'ils soient journalistes, pompiers, médecins, c'est voilà, tous pourris, bravo.
Premier expert qui vous retrouve ce lundi à partir de 10h pour le 10h midi. On ne bouge pas surtout dans quelques instants sur Sud Radio. On va rigoler avec Walter sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Micha Agar.
Ne bougez pas dans quelques instants, on va rigoler sur Sud Radio avec Walter. Mais d'abord, celle qui vit une nouvelle vie de maman avec un nouvel album qui est sorti en octobre dernier, Joie de vivre. Voici Louane et Désolé sur Sud Radio.
Avant qu'on s'abîme, on était bons amis. C'est pas où qu'on signe, c'est pas où qu'on fuit. Trop de mots d'amour imbéciles, tellement de signaux indécis. Moi j'ai pas grandi, c'est pas où qu'on vit. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. Avant les combats, avant qu'on s'égare, je jure que par toi, je t'aimais sans crier gare. Je m'empoisonne à la colère, la douleur je la prends, je la serre. J'ai perdu l'or et la joie, fallait pas mettre hors de moi. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier.
J'aurais dû crier, crier. Désolée, mais je t'ai laissé faire tes valises. Tu ne t'es pas retournée. J'aurais dû crier, crier. Je suis désolée. J'aurais dû arracher ta chemise. Pas te laisser tomber.
Louane, désolé sur Sud Radio, vous êtes les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, c'est le meilleur de Sud Radio. Et on va rigoler avec tous les matins à 8h30 dans le Grand Matin Sud Radio, le moment humour. Et là, nous revenons à jeudi, c'était Walter sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Comment ça va ?
Bonjour Cécile.
Alors
que, ça va et vous ?
Bah ça va, comme ça vous vous posez des questions sur votre position. Alors l'humour engagé ou humour intello ou calembour bon enfant, c'est ça c'est...
Tout à fait.
Oh là là,
ouais, mais... C'est un petit peu ça, Cécile, je vous avoue, parce que, écoutez, on ne va pas parler de Covid toutes les semaines, et je vais vous dire, c'est vrai, chaque semaine, la crainte m'étreint et le doute m'habite.
Voilà.
Hein, vraiment, est-ce qu'il faut être populaire ou engagé ? Est-ce qu'il faut être rassembleur ou rock'n'roll ? C'est une vraie question, n'est-ce pas, ma chère Cécile ? Parce que le calembour, prenez, c'est ringard, mais s'engager, c'est risqué. Regardez la dissolution par Gérald Moussa Darmanin de l'association de jeunes patriotes Génération Diversitaire.
Non, bon. Génération si Identitaire. Identitaire. Identitaire.
Ah oui, pardon. Non, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne pousse pas les gens, même si pour un ancien de LR, les Républicains, donc de l'UMP, les dissolutions, il aurait dû penser à un de ses grands ancêtres. Ça doit rappeler des mauvais souvenirs. C'est Chirac, c'est une blague pour les vieux. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, je suis dans l'interrogation. Ouais. Est-ce qu'on peut faire de l'humour engagé, une blague xénophobe au second degré, un vieux jeu de mots, un volet... Par exemple, là je suis en Asie en ce moment.
Par exemple.
Enfin, quand je dis je suis en Asie, je parle du continent, hein.
Ouais,
je n'ai pas un brassard avec une croix gammée. Je suis sur le continent asiatique, je ne suis pas en Asie, hein, voilà.
D'accord.
Eh bien, en Asie, puisqu'on parlait de Darmanin, qui avant d'être EM, il était LR, hein, eh bien, les Asiatiques confondent la lettre L et la lettre R.
Ah
vous
bon
voyez, par exemple, ils vont dire un temple, voilà, qui donne des effets comiques, hein, surtout en période d'élection. Si vous écoutez, par exemple, le mot « la République populaire de Chine », c'est le seul moment où le pays est marrant,
ouais.
Parce que bon, c'est un pays très, très malin, hein, il y a des « rao guys », c'est un peu comme les « gourags », et on se dit, est-ce qu'on a encore le droit de faire ça ? Coluche disait, je me souviens quand j'étais petit, alors c'était de mauvais goût, mais c'était quand même assez rigolo, il dit « Dieu a créé les Noirs parce qu'il n'avait plus assez de poils pour faire les singes », ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui,
non.
Mais qui était pris au second degré. Moi, ça me fait rire, les trucs cons comme ça. Je vous le dis, et ça me fait autant rire quand c'est sur les Blancs, hein, parce que vous savez, il a aussi dit qu'un Belge est mort en buvant du lait. Mmh. Vous savez comment, Cécile ?
Non, non, non.
Quand la vache est assise. Eh bien... Mais voilà, où ils disent à propos des Polonais, boire en conduire, de toute façon, on n'a pas de bagnole. Vous voyez, tout ça a passé assez bien. Pourquoi je dis ça ? C'est que l'autre jour, je regardais une émission qu'on... Merci Françoise. Alors, l'autre jour, je regardais une émission consacrée au roi d'Angleterre.
Oui.
Et moi, j'adore. Hein, c'était Stéphane Bern. J'adore Stéphane Bern et Franck Ferrand parce que j'aime beaucoup l'histoire et les homosexuels.
Oh,
et donc, Bern parlait de l'Angleterre.
Quel relou.
Il parlait de l'Angleterre, patrie du rock'n'roll, et il disait à propos du roi d'Angleterre le plus rock'n'roll de tous, Henri VIII, hein, fondateur de la dynastie des Tudors, et quand je dis qu'il est rock'n'roll, parce que c'est le seul mec au monde qui a créé une religion juste pour pouvoir se taper des gonzesses, hein, soyons clairs, eh bien Henri VIII, ou plus exactement Stéphane Bern a dit le père de Marie Première, dite Marie la Sanglante, Bloody Mary, hein, dont je ne connais, c'est d'elle qu'un cocktail à base de jus de tomate, hein, qu'on boit généralement uniquement dans les avions. Il a dit « Le monarque britannique Henri VIII a vécu ici ». Bah bon, c'est Stéphane Bern, donc il a plutôt dit « Le monarque britannique a vécu ici ». Et cette salle, qui nous est inaccessible en général, vous est ouverte. Enfin, bref. Et il a ajouté parce qu'il montrait, il y avait un lit et tout ça, et il a dit, nous sommes, et c'est ça qui m'a plu, c'est que manifestement c'est de l'humour involontaire, il a dit, nous sommes dans une chambre à coucher de style Tudor.
Oui.
Et j'avoue que là je me suis dit, j'étais obligé de trouver ça drôle, parce que je me dis une chambre à coucher de style Tudor, ok, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, parce que sinon c'est assez raté en matière de chambre à coucher. Et je vais vous dire que je pense qu'il faut revenir à un humour non engagé. C'est ça la conclusion.
Ah, c'est ça la chute. Ah, que
je veux dire, parce qu'en parlant de rock'n'roll, Cécile,
oui.
Vous aimez le rock'n'roll,
oui,
hein, vous êtes un peu rock'n'roll. Mmh. On ne le sait pas assez, mais je vous connais un peu hors antenne. Monsieur et Madame Hérisson ont un fils, comment l'appelle-t-il?
Je sais pas.
Georges Hérisson. Alors, chers auditeurs, si mes élucubrations vous semblent manquer de profondeur, méditez comme je l'ai fait moi-même sur les propos de Reinhold Niebuhr qui disait « L'humour est un prélude à la foi et le rire un début de prière ». Bonne semaine à tous.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Walter, dans le grand matin, Sud Radio, que vous retrouvez tous les jeudis à 8h30. Merci de nous avoir suivis. C'était le meilleur de Sud Radio. Tous ces rendez-vous sont évidemment à retrouver en podcast sur sudradio.fr et sur toutes vos plateformes. Je vous laisse en compagnie des programmes de Sud Radio. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.